Les rendez-vous de l'information, Jean-Louis Péguillan.
Nous recevons ce soir Jean-Noël Vignon, maire de Saint-Girons, et c'est donc en tant que maire de Saint-Girons que nous le recevons pour revenir sur la dernière séance du conseil municipal. À l'ordre du jour, l'approbation du compte administratif, l'affectation des résultats et la vote des taux, on va y revenir, et puis le vote du budget primitif. Alors l'approbation du compte administratif, monsieur le maire, ça consiste à quoi exactement, pour nos auditeurs, bien leur expliquer?
Oui, c'est une étape importante dans l'année, puisqu'on arrête les comptes de l'année précédente, là, en l'occurrence 2023, et l'intérêt, c'est qu'il y a en fait deux documents budgétaires. Il y a un document qui est tenu par le comptable public qui s'appelle le compte de gestion, et ensuite un document tenu par le maire qui est le compte administratif. Et l'exercice consiste à bien vérifier qu'au centime près, on est d'accord sur les dépenses et les recettes qui ont été engagées durant l'année, tant en fonctionnement qu'en investissement.
Ça doit se calquer avec ce qui avait été décidé sur le budget primitif, ça doit en gros coller plus effectivement ce qui n'était pas prévisible.
Alors le budget primitif, ce ne sont que des prévisions budgétaires. On ouvre des lignes de crédit et ensuite durant l'année, en fonction des besoins donc, que nous avons pu définir au moment du vote ou ceux qui se sont imposés à nous au cours de l'exercice, nous sommes amenés à adapter ces lignes de crédit. On peut faire des modifications budgétaires durant l'année et le compte administratif arrête en fin d'année donc toutes ces évolutions. À l'issue du compte administratif, donc on a une séquence importante aussi, ce qu'on appelle l'affectation des résultats, c'est-à-dire qu'on cumule les résultats passés plus les résultats de l'année. Et on affecte donc ces bilans pour l'exercice en cours. Donc là, ce que l'on peut noter, c'est que une fois de plus, le fonctionnement affiche un résultat excédentaire qui nous permet à la fois de combler le besoin de financement d'investissement, puisqu'on fait des investissements. Vous savez que les investissements, ils sont payés par les subventions, ils sont payés par l'emprunt et ils sont payés également par les excédents que nous dégageons. Donc là, en l'occurrence, nous pouvons couvrir sans problème les besoins de financement. Et on a arrêté donc un report pour l'année 2024 qui s'élève à un peu plus de 2 millions d'euros. Donc vous voyez que la situation financière est bonne, ce qui est en droite ligne de ce qu'avait souligné la Chambre régionale des comptes au mois de juin dernier. Hein. Et c'est vrai que j'entends ici ou là que certes, des travaux se font à Saint-Girons, mais peut-être que la situation financière se dégrade. Ben, vous pouvez constater aujourd'hui que non seulement...
C'est l'avis de l'opposition.
Pas, notamment, elle ne se dégrade pas, mais au contraire, pour le moment, la situation est plutôt saine.
Alors, affectation saine, ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin d'augmenter les impôts. Est-ce que vous l'avez déjà fait?
C'est le choix que nous avons effectivement fait cette année encore. Je rappelle que depuis que nous sommes élus, hein, c'est-à-dire depuis 2020, il n'y a jamais eu recours à l'augmentation des taux d'imposition dans la commune de Saint-Girons.
Alors, on pourrait peut-être rappeler, je sais bien que pour vous, c'est fastidieux parce que vous en avez l'habitude, mais pour nos cousins qui confondent tout, ce qu'ils ont à payer, tout est mélangé, ce qui revient à la commune, ce qui n'y revient pas.
Donc, ce qu'il faut rappeler effectivement, parce que souvent... On a des lectures rapides de ces feuilles d'imposition, pourtant qui sont importantes. Et donc, l'impôt se calcule à partir de bases qui sont définies par les services de l'État. D'ailleurs, je veux souligner le document qui avait été envoyé l'an passé pour les taxes 2023, édité par les services fiscaux, qui avait été d'ailleurs très bien fait, puisqu'il rappelait effectivement que le calcul de l'impôt se fait à partir donc des bases qui subissent une évolution automatique en fonction de l'inflation. L'année dernière, c'était quand même très important, c'était à hauteur de 7%. Donc ça, ce sont bien les services fiscaux qui en décident, contrairement à ce que j'ai pu entendre en conseil municipal. Le maire et la majorité municipale n'a strictement rien à redire à ces évolutions automatiques. Par contre, effectivement, les élus, chaque année, doivent se poser la question au niveau des taux, à savoir, est-ce qu'on se contente de l'évolution des bases qui est liée à l'inflation, ou est-ce qu'on va plus loin en augmentant les taux? Et donc, depuis 2020, le choix qu'a fait cette équipe majoritaire, c'est de ne jamais augmenter les taux. Donc, à la fin de la feuille, effectivement, on voit les impôts augmenter en fonction donc de l'évolution automatique des bases, qui répondent tout simplement à l'évolution des prix. Hein. Il faut se rendre compte quand même qu'une commune est amenée à à faire des dépenses, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit en matières premières diverses et variées. Et donc, il faut bien pouvoir continuer à acheter les équipements dont on a besoin. Et c'est justement ces bases qui évoluent chaque année, qui nous permettent donc de pouvoir assumer ces dépenses nouvelles. Et je le répète, le fait d'avoir une gestion saine fait que nous n'avons pas eu besoin de recourir à l'augmentation des taux.
Bien, on a bien compris. Juste dans les dépenses, est-ce que l'énergie aujourd'hui pèse lourd? Est-ce que vous avez pu compenser ces dépenses que vous avez en plus? On sait que vous avez refusé d'éteindre le centre-ville. C'est une bonne chose, parce que quand on voit Saint-Lizier qu'on passe après 11h du soir, ça fait quand même un peu triste. Enfin, ça, chacun fait le choix. Est-ce que ça pèse lourd dans le budget communal?
La réponse est oui. On a pu observer près de 5% d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Elles sont essentiellement liées à l'augmentation des coûts énergétiques, que ce soit l'électricité ou que ce soit le gaz, et également l'achat de matières premières, puisque là aussi, nous sommes amenés à faire différents achats et on a subi de plein fouet l'inflation. Donc on essaye de maîtriser au maximum ces coûts. Vous l'avez rappelé, en ce qui concerne les énergies, il y a deux actions fortes qui ont été menées déjà depuis un certain nombre d'exercices budgétaires. Au niveau donc des consommations gaz, c'est de faire en sorte que les bâtiments communaux soient mieux isolés, et on a mis quand même beaucoup de moyens, il faut le dire, bien accompagnés également par l'État, pour rendre nos équipements, nos bâtiments mieux isolés, de façon à moins dépenser de gaz, et au niveau de l'électricité également, sans parler de l'éclairage public, qui est un coût non négligeable. Et là, on a pris une décision, effectivement, c'est d'aller vers une extinction partielle, notamment sur tout ce qui est voies empruntées par les véhicules, boulevards notamment, et certains axes principaux. Bon, cette décision a été mise en application il y a quelques semaines, jusqu'à présent, donc on n'a pas de remontée, nous laissant penser que cela pose problème, et donc il faut aller dans ce sens, essayer d'être le plus économe possible en consommation énergétique pour pouvoir maîtriser les budgets, c'est clair.
Il va y avoir des travaux en ce sens, autre que de ce qui ont été faits ou pas au niveau de l'éclairage?
Oui, puisque là, on a fait le choix, donc, dans un premier temps, d'aller vers de l'extinction. Maintenant, on va travailler sur la qualité des lampes, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de renouveler petit à petit le parc de la ville en mettant des lampes plus adaptées, qui consomment moins.
Bien entendu, un des moments forts de ce conseil municipal, ça a été la dette, et c'est chaque fois interprété de façon différente par les majorités, par l'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la dette aujourd'hui? La dette a diminué, c'est ce que nous avez dit en entrée de journal.
Alors oui, c'est un fait. Hein. Quand on regarde quel était le niveau de la dette en fin 2019 et ce qu'il y a aujourd'hui, il est en diminution, c'est clair. Là aussi, il y a une volonté de maîtriser la dette. Alors la dette, je le rappelle, c'est la capacité qu'a la commune à emprunter pour payer des investissements, bien sûr. Donc notre objectif, c'est bien sûr de recourir à l'emprunt pour arriver à financer tous les investissements qu'on a à faire, mais à recourir à l'emprunt de façon à ce que cette dette n'augmente pas, ce qui est le cas aujourd'hui, vous l'avez rappelé. Et puis il y a surtout un indicateur qui avait soulevé la Chambre régionale des comptes, c'est le nombre d'années que la commune a pour rembourser la dette. Or là, nous sommes sur un nombre d'années qui est aux alentours de 5 ans, ce qui est un ratio très très favorable, puisque le seuil d'alerte pour les collectivités, c'est lorsqu'on dépasse les 10 ans de remboursement.
Vous voyez qu'on quand vous êtes arrivé, c'était à quel niveau?
On était légèrement au-dessus, puisque en 2019, fin 2019, la dette était à 6 114 000, et aujourd'hui, donc fin 2023, elle est à 5 500 000.
On arrive au budget primitif, je l'ai dit, le budget primitif permet de voir un petit peu ce qui va se passer dans la commune, c'est la vie de la commune quelque part, même si effectivement tout ne sera peut-être pas fait parce que il y a beaucoup d'aléas. Dans ces projets, il y a bien sûr le palais, ce qu'on appelle le palais des vicomtes. Alors on a vu ce qui a été réalisé au niveau du jardin, je crois que les Saint-Journais sont d'accord, sont contents de ça, à part qu'il n'est pas ouvert le samedi et le dimanche. Mais on l'a déjà dit, vous nous aviez fait une réponse, vous attendez de l'ouvrir de façon totalement sécurisée.
C'est ça, donc je pense qu'on sera amené à l'ouvrir à courte échéance, y compris le week-end.
Alors sur ce palais des vicomtes, j'ai entendu dernièrement M. Gondran dire qu'il se serait pris autrement. Il aurait préféré une pépinière d'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, il aurait dit que vous auriez pu abriter une pépinière d'entreprise dans le palais des vicomtes afin de gérer les dépenses au mieux.
Oui, je lui ai rappelé en conseil municipal, et je le rappelle ce soir à votre micro, le château de Vicomte, je ne sais pas s'il l'ignorait, il est occupé à 100% déjà. Hein, il faut rappeler que la médiathèque intercommunale occupe le rez-de-chaussée, que nous avons la chance d'avoir un tribunal de proximité qui occupe une grande partie de l'étage. Et enfin, nous accueillons aussi la mission locale, qui est une association donc, qui s'occupe notamment des jeunes à la sortie des études et qui est un relais très important pour la ville et le territoire. Donc d'abord, c'est la question que je lui ai posée. Il faudrait envisager de reloger ces différentes instances.
Ça me paraît difficile.
Et en fait, la question ne se pose pas, puisque vous l'avez compris, le château de Vicomte est occupé à 100%. Et je précise d'ailleurs, puisqu'il semblait l'ignorer, que nous avons des recettes d'ailleurs liées à ces occupations, puisque le tribunal est logé à titre gratuit. Mais la médiathèque, elle, nous reverse un loyer tous les ans.
Alors, dans ces travaux, juste sur ce palais des Vicomtes, ce château des Vicomtes, c'est juste l'extérieur que vous allez refaire là. Vous n'avez pas de travaux intérieurs à faire.
Alors, il y a deux objectifs. C'est bien sûr poursuivre, on va dire, l'approche qualitative du parc et du château. Donc, on va refaire sur un programme pluriannuel les façades. Et ensuite, il y a aussi un besoin qui est affirmé notamment par le tribunal, hein, c'est-à-dire rendre accessible le château. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas d'ascenseur hein, pour pouvoir aller dans les étages.
Au premier, oui.
Et donc, nous allons faire en sorte d'équiper ce château de l'ascenseur qui permettra aux gens, y compris à mobilité réduite, de pouvoir accéder aux étages.
Vous avez le montant des travaux pour le palais des Vicomtes, pas encore ou pas ?
Alors, nous avons actuellement deux architectes qui ont été mandatés, qui sont en train de finaliser ce travail qui nous permettra d'avoir une enveloppe relativement précise d'ici, on va dire, l'été.
Dans les travaux de en 2024 ou 2025 ?
Possible que certains travaux démarrent en 2024, je les vois
plutôt 2025. Dans les travaux aussi dont on parle depuis certains temps, c'est la rue de la République. Alors, la rue de la République, j'entends parler depuis très longtemps. Alors, c'est vrai que certains commerçants s'y étaient opposés avec les municipalités précédentes. Apparemment, vous avez décidé de la refaire, de l'arranger. Et je pensais que c'était en début d'année qu'on devait le faire, qu'on devait l'arranger, non ?
Alors, nous sommes en plein travail. C'est-à-dire que, là encore, les architectes ont été désignés, sont en train de travailler. C'est un travail de longue haleine, hein, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants dans ce dossier, à commencer par l'architecte des bâtiments de France, hein, que nous avions amené sur site, hein, qui a eu l'occasion d'échanger avec les architectes, ce que j'ai pu rappeler en conseil municipal. Déjà, la position de l'architecte est très intéressante à entendre. Il est clair que ce projet ne pourra se faire que si les trottoirs en marbre sont maintenus, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc les architectes travaillent dans ce sens.
Vous avez expliqué que ça glissait le marbre en période hivernale.
Il y aura un travail de traitement justement pour éviter qu'il y ait ce genre de difficultés durant les périodes de pluie ou de neige. Donc voilà la feuille de route de ce côté-là est connu. Il y a aussi une volonté, l'État nous l'a rappelé à juste titre, hein, de faire en sorte que tous ces travaux de rénovation de rues circulées laissent beaucoup plus de place aux piétons et aux vélos. Donc là aussi, c'est un des objectifs que nous avons fixés aux architectes. Ils sont en train de finaliser on va dire l'esquisse qui nous sera présentée là dans quelques jours. D'ailleurs, les commerçants seront associés à cette présentation. Et si tout va bien, on devrait pouvoir lancer l'appel d'offres avant l'été pour un début des travaux au cours de ce second semestre.
Vous maintenez la circulation des voitures ou pas ?
La circulation des voitures,
oui,
est maintenue.
À 30 à l'heure, sûrement.
Voilà, oui. On aura une vitesse adaptée et on s'autorise, bien sûr, dans le cadre de manifestations, de fermer la rue, de la piétoniser, comme il se fait déjà à certaines occasions.
Pour la petite histoire, vous savez que ces trottoirs en marbre, c'était le grand chantier de Mademoiselle Henri qui s'était affolée à un moment donné, parce qu'il y avait des travaux autour de l'église, de ne pas retrouver ce marbre qu'on avait enlevé. Mais je crois que pour le mettre, ça avait été le même problème, même difficulté pour pouvoir l'associer. C'est un problème difficile. Hein. Mais ouais. C'est effectivement, Saint-Jérôme, c'est ces trottoirs, ces bordures du moins en marbre.
C'est ça, c'est l'histoire de la ville et la nouvelle architecture des bâtiments de France tient à ce que cette histoire soit conservée.
À l'entrée de Saint-Jérôme, l'ancienne piscine, alors là, je sais que vous avez une réflexion là aussi dessus, et il y avait un terrain de jeu un peu pour les enfants de prévu ou pour les ados.
Alors plus que ça, c'est un projet d'équipement sportif, hein, là aussi le plan de financement.
Alors qui touche à l'ancienne piscine aussi.
Et a été regardé, c'est à l'extérieur de l'ancienne piscine.
À l'extérieur, d'accord.
Donc il va y avoir plusieurs équipements, on va refaire un city-stade, je dis refaire puisqu'il y en avait un par le passé, on va installer un skate park et un pump track, donc c'est tout ce qui est sport,
un quoi, hein,
sport de glisse, un pump track, c'est
oula,
tout simplement,
et
je, suivre, je vous explique en deux mots, c'est tout simplement une piste cyclable ou avec des skateboards ou autre, hein, qui permet donc avec des bosses de pouvoir glisser sur cette piste. Et ensuite, le skatepark, c'est des équipements qui, là aussi, permettent d'évoluer, notamment avec des skates ou avec des vélos adaptés, BMX mix et autres. Donc, c'est des sports urbains. C'est vrai qu'on a une demande forte, hein, de la part des jeunes et d'une association, d'ailleurs, qui est assez performante depuis de nombreuses années. On avait pris l'engagement de faire cet équipement et donc nous allons le réaliser. Là aussi, début des travaux, si tout va bien, deuxième semestre 2024.
Vous ne touchez pas aux arbres, monsieur le maire?
Alors, ça fait partie du cahier des charges. Nous ne toucherons pas aux arbres. On s'adapte.
Voilà, j'en connais qui vont être rassurés. Tout va bien, si je comprends bien, la municipalité Saint-Girons. Je ne vous sens pas soucieux aujourd'hui.
Alors, je vous
ne nous annoncez pas de mauvaises nouvelles, du moins.
Je vous confirme que je ne suis pas soucieux, et mon équipe non plus. Tout va bien, mais on a les mêmes difficultés que les autres communes. Hein. C'est vrai que nous sommes dans une période où la recherche des financements est compliqué, mais on essaye de faire en sorte d'être au rendez-vous chaque fois que les collectivités, et une fois encore, hein, je salue le partenariat qui est fait avec l'État, avec la région, avec le département, hein, qui nous accompagne toujours sur les projets structurants de la ville. Donc il y a du travail, mais c'est vrai que la situation financière aujourd'hui, au moment où on se parle, est plutôt une situation financière satisfaisante qui nous permet de continuer très tranquillement à décliner les projets que nous avions proposés aux Saint-Gironaises et aux Saint-Gironais lors de la campagne électorale, tout en assumant ce que j'appelle les investissements subis. Ils sont nombreux, puisqu'on a un parc notamment au niveau des constructions qui nécessitent un travail de rénovation. Beaucoup de toitures sont à refaire. Je ne vais pas vous redire ce que j'ai pu vous dire par le passé. Des passerelles. Nous avons aussi l'objectif de remplacer la passerelle sur le Lesse en 2025. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'investissements subis, mais pour le moment...
Elle n'est pas gérée par l'office HLM ? Elle n'est plus gérée par l'office HLM ?
Elle ne l'a jamais
été. Elle
n'a
jamais été.
Puisque cette passerelle n'a jamais fait l'objet du moindre entretien depuis qu'elle a été installée. Donc voilà, elle est dans un état maintenant qui va nécessiter son remplacement.
Dangereux, état dangereux, oui.
Elle est fermée depuis longtemps et on essaiera là aussi encore de l'assumer.
Il est beaucoup question en ce moment du quartier Saint-Vallier. Alors, quartier Saint-Vallier, tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose, parce que ce quartier, c'est le vieux Saint-Girons, et qu'il a besoin de rénovation. Aujourd'hui, on en est où? Parce que si j'entends l'opposition, elle se fait beaucoup de soucis pour le moment où il faudra racheter les immeubles qui sont rachetés par un organisme dépendant de la région.
Oui, rappelez d'abord la situation qui était Saint-Vallier quand nous sommes arrivés en 2020 à la tête de cette municipalité. Il y avait vraiment de gros problèmes de sécurité.
Et de cohabitation.
Et de tranquillité publique. Bon, nous avons travaillé là aussi, je pense, de façon très pertinente avec les services de gendarmerie et les services de l'État pour faire en sorte que tout cela cesse, ce qui a été le cas. Et ensuite, on s'est lancé dans une deuxième phase d'intervention, à savoir donc réfléchir à ce que pourrait être le quartier de Saint-Vallier de demain. Donc pour ça, nous sommes appuyés sur un bureau d'études qui est au travail déjà depuis un certain nombre de mois, qui est en train donc de nous permettre d'avoir un scénario qui se précise de plus en plus. On pourra y revenir. Et effectivement, on a la possibilité aussi de travailler avec l'EPF, c'est l'établissement public foncier, qui est en fait la banque foncière des collectivités et qui nous permet de saisir les opportunités. Lorsqu'il y a des ventes, on peut préempter ou on peut demander à l'EPF de préempter, ce qui se fait régulièrement. Et l'EPF, donc, acquiert les biens immobiliers. Donc là, aujourd'hui, on est à environ 500 000 euros d'achat. Donc, qui appartiennent à l'EPF. Nous avons 8 ans pour décider du devenir de ces biens immobiliers.
Donc, il va falloir, à un moment donné, racheter quand même.
Il y a deux hypothèses. Soit c'est des investisseurs privés qui s'intéresseront à la chose et donc c'est eux qui rachèteront le bien. Soit c'est la commune qui directement s'intéressera et rachètera le bien. Donc tout ça est un peu prématuré, bien sûr. On va attendre d'affiner le scénario. Alors, le scénario qui se dessine, hein, ça ne vous surprendra pas, c'est bien sûr de la rénovation au niveau de l'habitat. Hein. On veut que ce quartier puisse offrir des logements modernes, accessibles à tout âge d'ailleurs, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les personnes qui sont censées venir habiter en ville sans pour autant nécessiter une demande dans les EHPAD de la ville. Donc on va essayer de répondre à cette attente. Ce que je disais en conseil municipal l'autre soir, souvent on parle quand on rénove des quartiers de mixité sociale. Sous-entendu, faire en sorte de permettre à des personnes qui sont en difficulté sociale de venir également vivre dans ces quartiers. Nous, c'est tout le contraire qu'il faut que l'on fasse. Le quartier Saint-Vallier, aujourd'hui, vous le savez, il y a une population majoritaire qui, du point de vue niveau social, est effectivement classée dans les personnes à difficulté. Donc, il faut essayer de qualifier le quartier de façon à ce qu'on puisse amener des populations ayant peut-être, on va dire, des moyens.
Un pouvoir d'achat plus important.
Plus important.
Et c'est la mixité sociale aussi.
Mais vers le haut.
Oui.
Vous voyez, c'est tout à fait différent de ce qu'on entend habituellement. Et c'est le pari qui est devant nous et qu'on va faire en sorte de réussir, bien sûr.
Pour l'aménagement du quartier, de toute façon, c'est la municipalité. Donc c'est vous qui aurez toujours le choix et la possibilité de savoir ce que vous voulez faire. Ce ne sera pas dicté par...
C'est le fameux scénario dont je vous parle, qui sera donc arrêté par les élus. Et ensuite, après, on trouvera les porteurs de projets, je le répète, qui peuvent être privés. Ça peut être aussi des porteurs de projets publics. Hein. On a l'office HLM de l'Ariège, ouais, qui peut se montrer intéressé pour mener des opérations. Donc voilà, tout ça avance. J'espère qu'on pourra voir les premiers travaux dès l'an prochain.